toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin, Isabelle Chenu.
Grand médium guérisseur, l'échec ne fait pas partie de ce que j'entreprends. Amour, fidélité conjugale, il ou elle reviendra comme un toutou, à chaque problème une solution. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Ces quelques lignes sont tirées d'une véritable annonce de médium, ces petits papiers que l'on vous distribue dans la rue à la sortie du métro, et particulièrement de la station Barbès-Rochechouart à Paris, aux portes du quartier de la Goutte d'Or. C'est ce territoire au nord de Paris, proche de la Porte de la Chapelle, un territoire cosmopolite, peuplé d'habitants précaires, clandestins, de différentes nationalités, qui a inspiré le dernier film de notre invité du jour, Clément Cogitor. Bonjour.
Bonjour.
Goutte d'Or est votre troisième long-métrage. Et Karim Leclou, bonjour.
Bonjour.
Vous tenez le rôle principal de Goutte d'Or, celui de Ramsès, un voyant escroc dont le monde va vaciller quand il va expérimenter une véritable vision.
Vous déposez ici le métal, bijoux, ceinture, téléphone.
Et pourquoi ?
À cause du magnétisme.
Manu.
Mais c'était son petit nom.
Manu est avec nous maintenant.
La dernière fois, je pensais avoir trouvé.
Madame, médium, médium.
Mais là, je sais plus du tout comment te faire. Littéralement, puis ils reviennent.
Un extrait de la bande-annonce de Goutte d'Or, Clément Cogitor. Ce film, donc, vous l'avez intitulé comme ce quartier parisien. C'est le territoire en soi qui vous a inspiré l'histoire de Ramsès ?
Oui et non. C'est-à-dire que le personnage est arrivé avec le territoire, mais c'est surtout son histoire à lui. Et il se trouve qu'il habite et qu'il travaille là. Comme ces médiums qui distribuent ces petits prospectus à la sortie du métro. Et c'est vrai que pour les Parisiens ou les gens qui connaissent un peu Paris, cette image-là de se recevoir ce tract-là à la sortie du métro, c'est que à cet endroit-là, quasiment dans Paris. Mais oui, moi, c'est un quartier que j'aime beaucoup. C'est le quartier par lequel moi je suis arrivé dans Paris pour la première fois, qui est une personnalité très. Et une énergie très forte, très singulière, qui est un des derniers quartiers populaires de Paris, et qui m'a très vite. Aspiré et conquis. J'y ai habité, je m'en suis jamais vraiment éloigné. Et puis j'ai eu envie aussi petit à petit de le filmer. Les films présents que j'ai pu faire étaient plutôt dans des grands espaces, des espaces naturels. Et j'avais envie de confronter mon imaginaire à l'espace urbain et faire un film aussi plus proche des personnages ou avec des personnages plus complexes.
Le début du film, il est presque documentaire. On a tous eu ces petits papiers, il y en a même qui font collection. Il y a beaucoup de marabouts, notamment. Là, on est presque dans l'envers du décor.
Oui, alors le film commence un peu comme une fausse piste documentaire, d'exploration un petit peu sociale du quartier. On se dit que ça va être un film sur le quartier, ce qui n'est pas vraiment le cas. Petit à petit, le film se construit vraiment sur le personnage de Ramsès qui est joué par Karim. Et aussi par rapport au côté un petit peu documentaire du quartier, ou comme le tract que vous lisiez, il y a toujours une idée de réparation, de gars qui promet à peu près n'importe quoi, n'importe comment, avec des embrouilles visibles, avec des très grosses ficelles, alors que lui, il fait un business très particulier, il le fait très bien. Enfin, en tout cas, il a montré un système qui fonctionne très bien, ce qui fait qu'il a beaucoup de succès, mais qui est simplement d'être un intercesseur avec la voix des morts. Donc, il arrive à transmettre leur présence et un certain nombre d'informations que les morts ont à transmettre. Et donc, il ne promet pas ni guérison, ni le retour de l'être aimé, mais il fait juste ça. Par contre, il le fait très bien, ce qui aussi lui pose des problèmes de concurrence.
Alors, Karim Leclou, vous incarnez à l'écran Ramsès, ce voyant arnaqueur. Alors, Ramsès est un bon acteur. Il fait commerce de la consolation. Il a beaucoup d'intuition, néanmoins, même si c'est un escroc. Est-ce qu'il a un mode opératoire ? Quel est son mode opératoire ?
Il y a un truc. Et pour ça, il faut aller voir le film pour dévoiler le truc. Mais effectivement, il y a une astuce qui lui permet d'accéder à la voix des morts et à l'information des morts. Et du coup, c'est quelqu'un qui fait extrêmement bien son travail, qui est très rationnel dans son travail, lui qui vend quelque part de l'irrationnel. Après, moi, même s'il y a une part de malhonnêteté, je le voyais comme une sorte de prestataire de service, et surtout comme un être qui fait du bien. Enfin, qui soulage les consciences et qui soulage les personnes qui viennent le voir. Et du coup, je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir cette dualité entre un peu de malhonnêteté et en même temps ce grand consolateur qui fait du bien aux gens.
On sent qu'il a quand même une grande expérience de la psychologie humaine et que dans son expérience de vie, même si elle a pu être difficile, il la met au service finalement des autres.
Oui, pour moi, c'est comme ça que j'ai abordé ce rôle. Effectivement, il y avait quelque chose de l'ordre de l'empathie, de l'écoute et vraiment de l'ordre de la consolation. C'est un grand consolateur et je trouvais ça très intéressant puisqu'il y a cette part-là chez lui quand il se met en scène dans son cabinet de consultation et ce personnage à l'extérieur qui est un personnage par contre absolument craintif, faillible et qui n'est pas du tout l'acteur qu'on voit puisqu'il se met en scène lui quelque part quand il fait ses séances de consultation.
Vous, Clément Cogitor, quand on regarde Goutte d'or, on se demande si vous avez vraiment enquêté dans le milieu des marabouts, parce que vous nous décrivez un monde qui a ses règles, un peu comme un marché qui se partage les communautés.
Alors, je pensais faire beaucoup de documentation et m'en servir beaucoup. Alors, il y en a dans le film, mais qui ne concernent pas les médiums. C'est-à-dire que, un petit peu comme ce tract qui promet un petit peu tout et n'importe quoi, je pensais m'inspirer de techniques existantes. Mais en fait, les ficelles étaient tellement grosses que ça versait plutôt dans la comédie ou dans l'absurde. Ce qui n'était pas vraiment le projet où je voulais, moi, explorer la question de la manipulation et de la fiction consolatrice. Parce que... Avant d'être un consolateur, Ramsès est un manipulateur d'affect et d'informations. C'est un personnage que j'avais envie qu'on ait beaucoup de mal à juger. D'un instant à l'autre, se dire mais c'est vraiment un salaud, c'est un escroc. Et en même temps, c'est aussi un poète. Et c'est aussi quelqu'un qui a une sorte de compréhension de la psychologie humaine et d'attention aux gens qui sont en face de lui. Les rivalités entre médiums ou les parts de marché qui se partagent entre différentes communautés ou disons, différents bouts de quartier, ça provient beaucoup plus de mon imagination. Et c'est aussi peut-être une métaphore d'une rupture de manière de faire, d'utiliser les technologies ou pas, ou des ruptures entre deux générations avec un nouvel arrivant qui arrive et qui a vraiment envie de faire de l'argent et du coup qui casse l'équilibre économique du quartier, qui sont là, les autres sont un peu comme face à des petits artisans, face à un grand groupe type Amazon ou Uber.
Uber de la voyance.
Et qui prend tout et en fait, il n'y a aucune règle en fait. Chacun fait les choses comme il veut et que le meilleur gagne. Et ce qui est, voilà, face aux petits artisans en face, qui ont réussi à mettre en place quelque chose où voilà, on respecte certaines règles, ça crée des tensions. Quoi.
Une nouveauté musicale dans tous les cinémas du monde, le choix de notre réalisatrice Alice Ménard, c'est Caroline Polachek, I Believe. Bien sûr, RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie du réalisateur Clément Cogitor et de l'acteur Karim Leclou pour parler du film Goutte d'or qui sera en salle mercredi prochain. Alors on l'a évoqué avec tous deux, le début du film, on voit Ramsès effectivement comme un peu un conquérant, enfin en tout cas il vient bousculer le business des médiums de la Goutte d'or. Il a un côté presque très libéral à rechercher, voilà, à faire de l'argent. Avant que ça ne bascule, comment vous l'avez imaginé, ce Ramsès, Karim Leclou ? Vous lui avez imaginé un passé ? Vous lui avez imaginé pourquoi il cherche autant à faire de l'argent ?
Je crois que c'est presque... Enfin, il y a quelque chose de maladif là-dedans, ce qui se construit un peu contre l'irrationalité aussi, ce personnage de son père. Et du coup, il a une faille affective assez énorme. Et moi, je pense qu'il comble par le matériel et l'argent un manque terrible et que c'est pour lui un élément très tangible et qui lui permet de construire sa vie. Et je l'imaginais en tout cas se construire contre finalement, enfin, quelque chose d'irrationnel et contre un père parfois un peu fou. Et du coup, je crois que c'était une façon de se protéger, aussi de manifester son amour à son père, parce qu'il lui envoie quand même, frère, on voit, il y a une scène où il lui envoie de l'argent, et je crois qu'il a, pour moi, je le voyais avec un rapport de l'ordre du matériel, mais de la construction, et surtout de celui qui a manqué. Pas du tout, on sent pour moi quelqu'un qui a manqué de choses dans son enfance et son adolescence.
Est-ce que finalement, Clément Cogitor, le succès de Ramsès, on fait la queue devant son cabinet, c'est pas parce qu'il parle directement avec la voix des morts, mais il y a rien de religieux en fait. On peut venir de partout, de tous les coins du monde.
Et complètement, je pense que c'est ce qui fait son succès, parce qu'il s'est affranchi de tout folklore, de tout exotisme et de toute croyance religieuse, et que c'est... son cabinet de consultation est assez neutre, sans afficher de signes, ce qui fait que n'importe qui, de n'importe quelle communauté ou de n'importe quelle culture peut arriver et en fait se sentir accueilli ou à sa place, dans la mesure où il ne se sent pas dans une culture étrangère, parce que Ramsès se présente juste comme un intercesseur entre la voix des morts et les vivants. Et alors ça, c'est pour l'aspect un peu, disons, de présentation à la fois spirituelle, mais en même temps de mise en scène de lui-même. Mais c'est aussi, d'un point de vue économique, la meilleure manière de gratter une clientèle la plus large possible.
Et puis donc, le film va basculer. Ramsès va basculer au contact de mineurs marocains, des clandestins isolés.
Ça, c'est pour toi. J'ai mis 300.
Cool. Normal, ça marche bien.
Oh ! Mais vous faites quoi, putain ?
C'est
ma mère là!
Ouais,
non!
C'est les gosses du squad.
Ils sont hackés.
À la rue.
Oh! Oh, tu fais quoi là?
On m'a manipulé. Hein?
مرض للشيطان في وقت الشيطان
شكون اللي معاك
الرجال على انساخي على الجزيره.
Alors Clément Cogitor, là s'opère un changement de perspective avec ces mineurs marocains qui sont violents, qui sont drogués. Alors on en a beaucoup parlé dans les pages faits divers, hein, des journaux en France, hein, de ces bandes d'enfants qui ont pu terroriser le quartier de la Goutte d'Or. Cette irruption, le fait qu'il s'adresse à Ramsès pour retrouver l'un d'eux qui a disparu, alors censément avec de la drogue, c'est le déclencheur d'une crise chez Ramsès. Il va avoir une véritable vision. C'est presque un côté arroseur arrosé.
Oui, c'est... Donc le scénario du film a une apparence assez sinueuse, mais en fait c'est un chemin assez simple que fait le personnage, presque celui d'un conte initiatique, où tout d'un coup il se rend compte qu'il a hérité de quelque chose, parce qu'en fait on comprend qu'il a un peu hérité le cabinet d'un point de vue économique de son père, qui faisait le même travail, mais le père qui présente une certaine instabilité ou un rapport très bizarre à la croyance, et a aussi une espèce de... Enfin, en tout cas, un rapport plus simple et plus sincère à la croyance et à la spiritualité. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne s'était pas vraiment transmis. Et tout d'un coup, c'est comme si Ramsès, tout d'un coup, héritait de quelque chose d'autre qui ne pensait pas ou surtout ne voulait pas hériter. Mais disons, dans le film, c'est deux trajectoires qui se croisent, celle de ce groupe d'enfants, d'adolescents et celle de Ramsès. Le premier point commun qu'ils ont, c'est d'aimer beaucoup l'argent, les deux. Mais petit à petit, à force de devoir être liés et passer du temps ensemble pour des raisons que le scénario sans trop en dévoiler, mais ils vont se retrouver liés, ils vont avoir des choses à échanger ou à partager. Mais oui, c'est un groupe d'enfants dont on a beaucoup parlé. En fait, au moment où je commençais à écrire le film, dans les années 2016, 2017, 2018, il y avait des groupes de jeunes qui vivaient dans la rue à Tanger, qui ont réussi à traverser l'Espagne, la France, et qui ont atterri dans le square Bachung, la Goutte d'Or. Et c'est vraiment quelque chose qui a mis en crise le quartier, parce que personne n'arrivait à gérer ni cette détresse, ni cette violence, ni à construire de liens. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans le film, notamment, même en entendant la bande-annonce, ce moment où Ramsès ouvre la porte de chez lui, rentre et voit des gamins en train de vider le frigo et ses habits et de se servir. Et voilà, qui sont passés par des échafaudages, casser une fenêtre et rentrer dans un appartement. C'est des choses qui ont été vécues par des habitants. Et bien, parmi d'autres choses, alors des fois des choses drôles, des fois des choses très violentes, des fois des choses très surprenantes. Mais c'était... voilà, un groupe qui échappait aux différentes communautés, c'est-à-dire que ni les associations, ni les éducateurs, et encore moins la police, a réussi à construire quelque chose avec eux.
Karim Leclou, Ramsès, votre personnage de médium escroc, n'a pas peur de ces adolescents. Enfin, il semble ne pas en avoir peur de ces adolescents imprévisibles. Il semble presque attiré, fasciné par eux. Peut-être qu'il leur ressemble un peu.
Je pense que sur le groupe d'enfants ou lui, il y a une construction quand même contre, quelque part contre les parents. Déjà, il y a ce point-là, le point de l'argent, le point de... Donc ils ont des points communs. Après, je trouvais qu'il y avait une scène, moi, qui me faisait beaucoup rire, c'est que ce grand Manitou, dans cette première partie, qui semble présenter une assurance, elle est cassée tout de suite par un enfant qui lui met une gifle. Et ça, moi, je trouvais ça... Enfin, pardon, mais j'ai trouvé ça hyper drôle. Tout d'un coup, comment on pouvait casser un personnage. Et c'est surtout des révélateurs de son humanité, et je pense que c'est grâce à eux qu'il va vers un chemin de rédemption et vers une nouvelle voie dans le film, et qu'il y a une vraie rencontre qui se fait. Et je trouvais ça très beau aussi dans le film de Clément, justement, de pas traiter je reprends un champ lexical qui est très utilisé, mineur, isolé, étranger, en ce moment on l'entend beaucoup, et je tout d'un coup de redécouvrir à travers le scénario aussi que ce sont des enfants. Et le scénario aborde aussi cette thématique à un moment de leur enfance, de qui ils sont, et de dézoomer en fait ce qu'on nous montre souvent. Le film est assez malin, il les présente effectivement en apparition, comme la première apparition, c'est une apparition assez violente, et tout d'un coup c'est un film qui dézoome aussi sur eux, et on accède à leur humanité et à leur enfance, et je trouvais ça beau d'avoir ce regard sur une ville qui laisse ses enfants dormir dehors. Voilà, je trouve que c'est quand même un film extrêmement puissant et un regard... pas quotidien, ou dans le vrai Paris, dans le Paris dans lequel on vit tous, le Paris des travaux.
Oui, exactement. Il y a ce chantier immense. D'ailleurs, ça ouvre le film. Une pelleteuse, comme je ne sais pas si on parlait de refoulé, en tout cas du fait que on filme les marges. Vous filmez les marges, Clément Cogitor.
Je pense qu'on peut vraiment parler de refoulement, mais même physique. C'est-à-dire que après avoir chassé les classes populaires de Paris, enfin, le dernier mouvement d'urbanisme est en train de chasser la classe moyenne, et même si la Goutte d'Or résiste encore, et peut-être il y a un ou deux quartiers, cette ville qui devient une forteresse, ou même avec les chantiers des JO, du Grand Paris, il y a un mouvement d'urbanisme que je trouve vraiment, vraiment violent. Et j'avais aussi envie de saisir l'énergie d'un quartier. Le film commence à la Goutte d'Or, mais il se joue sur un axe qui est entre la Goutte d'Or, le port de la Chapelle et le début de la Plaine Saint-Denis. Et c'est là où il y a vraiment de très gros chantiers en ce moment, où on sait qu'on filme des paysages qui, dans 5 ans, seront radicalement différents. Et c'est aussi une manière de garder une trace de ces mouvements et de l'énergie de ces lieux à ce moment-là.
Sophie parlait tout à l'heure de cette deuxième partie du film où il y a un changement de perspective. C'est un peu comme une bascule. Je trouve qu'on bascule dans quelque chose de plus mystique. En tout cas, le personnage Ramsès, il semble guidé par quelque chose qui le met sur la piste de cet enfant mort qu'il recherche. Est-ce que c'est quelque chose que... vous avez voulu...
Oui, il y a clairement un film qui bascule dans une deuxième partie, ou en tout cas on peut diviser le film avec un avant et un après, mais en fait il y a des moments qui manquent, ou soit qui créent des ellipses, ou des moments qui créent un trouble, ou d'un coup Ramsès, qui maîtrisait exactement les informations, les identités et les conséquences de tout ce qui se produisait en face de lui, et tout d'un coup se rend compte que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, et parfois de manière extrêmement simple. des choses avec une réponse très simple, mais tout d'un coup, le monde, c'est comme s'il se dérobait un peu sous ses pieds, et des fois, de manière moins explicable ou plus irrationnelle. Et du coup, ça... C'est comme si le personnage était une sorte de bloc de marbre qui petit à petit se fragmente, parce que l'environnement est plus complexe que ce qu'il pensait.
Et Karim Leclou, du coup, vous semblez presque habité. Ouais. Autant dans la première partie, vous jouez la personne habitée, mmh. et on voit que vous jouez, enfin on sait que votre personnage compose, autant dans la deuxième, là c'est encore plus subtil, parce que votre personnage le semble vraiment habité par une vision.
Oui, en plus, il y a un phénomène, puisqu'on a enchaîné les nuits, et qu'à un moment, quand vous tournez tous les jours jusqu'à 6-7 heures du matin, il y a un décalage qui se fait, et à un moment, déjà, ça vous désaxe un peu. Et du coup, ça vous ramène une part d'animalité, j'ai l'impression, mais qu'il y avait d'ailleurs sur le tournage, qui était palpable. Et du coup, à incarner, je ne me forçais pas trop. À un moment, je me demandais si je ne devenais pas un peu fou. Et c'est ce que j'aime dans le cinéma aussi de Clément, c'est qu'il est capable, tout en contrôlant, de perdre un peu l'équilibre, les repères, et de vous ramener dans un autre endroit. Et j'ai eu, moi, l'impression de ne pas jouer toujours ça, mais d'être un moment dans un ailleurs qui m'a touché et qui m'a bouleversé, parce que je trouve que c'est un ailleurs puissant. Et je vais parler d'un acteur, Ahmed Benaïssa, qui évoque le sentiment dans une scène de paternité et qui le fait avec une poésie magnifique. D'habitude, des fois, dans le cinéma, des fois, les mots de poésie s'envolent vers le ciel. Et là, dans ce film-là, elles épousent le sol. Et c'est quelque chose que j'aime. Je trouve que c'est magnifique, le cinéma de Clément Cogitore. C'est un cinéma qui magnifie les classes populaires et qui les traite... avec poésie, et j'en suis entièrement reconnaissant.
Clément Cogitore, comment vous les avez recrutés, ces enfants, ces jeunes mineurs marocains ?
Alors, on pensait que ça allait être très long et très compliqué. Et en fait, il y a eu deux directrices de casting sur le film, qui sont Tatiana Vial et Mohamed Bellamar. Et c'est Mohamed qui était chargé du casting des enfants. Et en fait, il les a trouvés assez vite, en fait. C'est-à-dire que, en plus, la recherche n'était pas très simple, parce qu'il fallait qu'ils parlent, un arabe natif, un Derija sans accent français, ce qui n'est pas si simple à trouver. Et du coup, je crois qu'au bout de 2-3 mois, on a constitué le groupe. Enfin, en tout cas, on avait un premier groupe, et à partir duquel on a trouvé les acteurs. Et ils ont fait un travail génial. Enfin, j'étais pas face à des petits gars qui...
Ils les ont trouvés au Maroc ou
en
France,
ils sont,
à
ils sont tous. Alors, il y en a qui venaient juste d'arriver. En fait, ils ont orienté le casting sur ce qu'on appelle les primo-arrivants, c'est-à-dire soit une première génération qui vient d'arriver en France, soit des jeunes qui sont entre le Maroc et la France. Alors, ils ont tous des biographies, des parcours très différents. Il y en a certains qui font très peur dans le film, qui sont en vérité les premiers de la classe et qui sont très extrêmement doux. Enfin, en fait, ils ont vraiment fait un rôle de composition. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris ce qu'on appelle dans le cinéma des natures, des gens qui arrivent avec leur énergie, qui sont comme ça devant la caméra. En fait, ils ont beaucoup travaillé et composé leur rôle. Et on a parlé, Karim était aussi avec eux. Enfin, voilà, c'était un travail collectif et c'était une grande force de proposition. Mais voilà, c'était des choses où on s'est dit ça va être très compliqué, ça va être un problème. Et puis, parfois, on a de la chance, juste on les a... Enfin, Mohamed a fait un super travail pour les trouver, et on a eu la chance de les trouver vite.
On disait, Karim Leclou, il y a un rapport presque fraternel entre Ramsès et ses jeunes, en fait. Au final, c'est comme s'il rentrait dans la bande. Ce rapport, il est aussi accentué par le fait qu'il les ramène chez son père, comme s'il faisait partie de la famille, en fait.
Oui, à un moment, je crois que c'est un temps fugace du film, il forme une sorte de famille... de gens fragiles et ils vont vers quelqu'un qui peut leur faire du bien. Et je pense qu'effectivement, le temps, c'est un temps fugace dans le scénario, parce que c'est un petit temps, mais à un moment, ils font vraiment un corps et un même corps. Et on a l'impression d'une meute où ils ont accepté un loup pas en bonne forme, mais un peu en surpoids, et qu'ils ont eu la gentillesse de l'accueillir. Et donc, du coup, effectivement, d'ailleurs, ils font preuve de générosité à son égard quand il le voit habillé un peu n'importe comment et qu'il lui propose des habits un peu plus décents. Et du coup, effectivement, il forme pour moi un instant T, une famille, ouais.
Et à tel point que je me suis demandé dans le film, quand il les ramène chez son père, si ce Ramsès n'avait pas été lui, dans son enfance, un ancien enfant des rues adopté par cet homme et que ce n'est pas son vrai père. J'ai rempli les blancs comme ça. Mais ce n'était pas votre intention, Clément Cogitor.
Alors, littéralement, pas exactement, mais il y a cette idée qu'ils ont des choses en commun et que peut-être que Ramsès aurait pu basculer. Alors, en France, un jeune qui bascule à la rue, c'est moins fréquent. Enfin, à Tanger, c'est un phénomène malheureusement récurrent, mais on peut se dire que Ramsès a pu être un adolescent ou un enfant en point de rupture où on voit que le rapport de la croyance au père est à la fois beau et en même temps à la fois potentiellement instable ou même pathologique, et qu'il a probablement eu du mal à se construire, en tout cas lui-même à avoir un rapport sain et constructif à la croyance, qui, je pense, l'a amené aussi à construire ce système-là en se disant, essayer d'en faire quelque chose, mais d'un point de vue rationnel quoi, et économique aussi.
On parlait de poésie, enfin Karim Leclou parlait de poésie à propos de ce film, et moi je pense à une séquence, je voulais savoir comment elle vous était venue, parce que c'est presque de l'alchimie, lorsqu'on est dans l'arrière-boutique d'un magasin qui est tenu par peut-être une Indienne ou une Sri Lankaise, une femme Sri Lankaise, avec des ouvriers, enfin des personnes qui récupèrent le métal de téléphones à l'origine douteuse, et vous filmez comme ça, enfin en tout cas Ramsès regarde, et est assez fasciné, et regarde dans le creuset, là, le métal fondu. Bon, je ne sais pas si c'est de l'or, ou en tout cas, ça pourrait y ressembler, mais ce n'est sans doute pas de l'or. Il y a un côté alchimie.
Ouais, exactement. C'est plusieurs choses. À l'origine, ça vient de choses qui m'intéressaient pas mal. C'est que les gamins à la Goutte d'Or, en fait, avaient des espèces de banquiers qui pouvaient être un bijoutier du quartier, qui d'ailleurs est tombé après, enfin, s'est fait avoir par la police, mais qui leur servait, enfin, ils récupéraient des bijoux, ils leur donnaient du cash. Ou aussi un taxiphone qui récupérait les téléphones et voilà, c'était... qu'il y avait des petits commerces qui étaient impliqués dans le recel. Et puis là, c'était de transformer ça. On voit qu'ils ont un lien économique avec cette femme qui tient la boutique, mais c'est aussi un havre, un endroit où on peut parler, être accueilli. Enfin, on sent qu'ils l'appellent Mima, ce qui veut dire enfin, mamie. C'était aussi de jouer ce lien-là qui est à la fois économique et en même temps on sent que ça pourrait être affectif. Et puis l'autre vision, c'était de se dire que derrière boutique, ils brûlent des circuits imprimés pour récupérer des métaux précieux, qui est une espèce de micro-économie très précaire, parce que la valeur de ce qu'on récupère par rapport au travail et à la toxicité de l'opération, c'est pas très équilibré comme rapport. Mais que Ramsès assiste à ça comme une vision de l'enfer pour lui, enfin, ou en tout cas de tout son petit monde qui s'effondre. C'est-à-dire que lui ne travaille qu'à partir d'une mémoire... pour pas trop dévoiler, mais il utilise les nouvelles technologies et tout d'un coup tout ça, tout ce qui fait son outil de travail part en fumée et se liquéfie comme dans de l'alchimie, mais en même temps c'est une forme de destruction. Enfin, l'alchimie est une destruction qui transfigure quoi, et c'est aussi l'histoire du personnage.
C'est toutes ces arrière-cours aussi, ce côté obscur du quartier de la Goutte d'Or que vous faites ressurgir, tout ce petit monde en fait qui n'est jamais montré au cinéma.
Oui, alors là, en l'occurrence, ça se passe plutôt vers la Plaine Saint-Denis. C'est-à-dire que le film, enfin, leur trajet commence à la Goutte d'Or, passe par la Porte de la Chapelle et finit de la Plaine Saint-Denis. Mais c'est le même type d'ambiance ou de recoin ou d'arrière-cour où tout d'un coup une économie en développe une autre un peu plus loin. Voilà, des économies un peu parallèles qui sont entre le trafic et l'économie de la survie. Et oui, c'est des choses, je sais pas, qui ont été peu ou pas filmées. Ouais.
Et en même temps, je trouve un Paris. De montrer un Paris justement où il y a des grillages, des grilles, j'ai l'impression que c'est le vrai Paris, hein, pardon, mais j'ai plus l'impression que des fois on filme un monde que je connais pas, une île de France que je ne connais pas et un Paris que je ne connais pas, Mickey Mouse. Non mais réellement,
c'est Emily in Paris.
Oui, une vision très, très, très romantique et très romancée de cette affaire, parce que quand même, même sur des gros films d'action américains, Tom Cruise qui va très vite, il pourrait pas en fait faire Mission Impossible si on était dans ce vrai Paris. Il mettrait un peu plus de temps. Voilà, ça serait un grand film, mais de très très long.
Un Paris démystifié, quoi.
Oui, en tout cas un Paris dans lequel les gens vivent, et même les espaces restreints, je pense que ça parle à tous les Parisiens. C'est pas une vision de l'esprit aujourd'hui que de montrer justement des espaces restreints ou des grillages, des grilles, des travaux et d'une ville en mouvement. Moi, je trouvais ça super joli. Et quand il y a une phrase que le père dit à un moment, quand je crois qu'il dit « L'enfer est vide, tous les démons sont dehors ». C'est ça ?
Non, l'enfer est vide, tous les démons sont ici. Ça, je l'ai piqué à Shakespeare.
Ça. Ben, voilà. Merci Shakespeare, parce que tu... Voilà. Non, merci, parce que c'est... Il y a quelque chose, même de la... à force de remuer cette terre, il s'y passe des choses, quoi.
Clément Cogitor et Karim Leclou, merci. Je rappelle le titre de ce thriller poétique qui sort en salle mercredi prochain, c'est « Goutte d'or ». On vous retrouve, Isabelle, pour faire le point sur la cérémonie des Césars qui s'est tenue hier. Puis nous dévoilerons un peu de la sélection du FESPACO, le festival panafricain de cinéma de Ouagadougou, qui s'ouvre dans quelques heures, juste après cette nouveauté musicale « Boyfriend » par Étienne Daho.
Je serai ton ami et ton boyfriend aussi. Celui qui guidera ta main pour voir ton chemin s'éclaircir. Je serai ton pote, ta dope, pharmacopée. Je serai le cachet qui fond sous la langue pour t'apaiser. Je serai tout près, gardant bien mes distances. Ton poison le plus violent, ton fils de joie, ton astre blanc. Je jouerai à tous les hommes de ta vie que j'incarnerai à l'envie.
Vous êtes bien à l'écoute de tous les cinémas du monde. Place à l'actualité brûlante du 7e art et d'abord les Césars qui se sont tenus hier soir. Alors Isabelle, quel film est le grand gagnant de la cérémonie ?
C'est La nuit du 12 de Dominique Moll, sacré meilleur film, une enquête de police judiciaire sur le meurtre non résolu d'une jeune femme de 21 ans.
Est-ce que Clara avait des ennuis ?
Elle tombait facilement amoureuse.
Elle voulait toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse.
Elle aimait bien mon côté animal, un baiser fort.
Sans doute le film le plus intelligent et le plus sensible de l'année, la productrice Caroline Benjo.
Dans le film, deux personnages partagent ce constat. Il y a quelque chose qui cloche entre les femmes et les hommes. C'est un euphémisme. Le morbide décompte de la violence faite aux femmes tient en une phrase. Un décès tous les trois jours et dans les mauvaises années tous les deux jours. Donc, je dirais vive les femmes. Et vive les hommes qui rejoignent leur combat, parce que ce combat, nous devons le mener ensemble. Merci.
Le réalisateur de La nuit du 12, Dominique Moll, repart également avec le César du meilleur réalisateur. Les deux acteurs principaux du film, Bastien Bouillon et Bouly Lanners, sont eux aussi récompensés, meilleur espoir et meilleur second rôle. La nuit du 12 rafle également les Césars du meilleur son et de la meilleure adaptation du scénario. Dominique Moll.
Je voulais avoir une pensée pour la vraie Clara, c'est-à-dire la vraie victime de l'affaire qui a donné lieu au film. Voilà, elle s'appelait Maude. Merci.
Une cérémonie des Césars résolument placée sous le signe des femmes et de la sororité. La réalisatrice Alice Diop repart avec le César du meilleur premier film pour Saint-Omer, le procès d'une mère infanticide.
Je voulais juste dire que je suis très très fière d'appartenir à une nouvelle génération de cinéastes françaises. Cette année, j'ai vu des films extraordinaires qui m'ont fait réfléchir aux possibilités du cinéma. Et je voudrais citer ici des films qui m'ont complètement inspiré, des films de Claire Denis, des films de Rebecca Zlotowski, des films de Mia Hansen-Love, le film d'Alice Vinocourt, le film de Cécile Deveau, de Blandine Lenoir. Merci, on ne sera ni de passage, ni un effet de mode. On est appelé à se renouveler année après année, à s'agrandir. Merci à vous les filles. Merci d'être là. Merci.
Virginie Efira est sacrée meilleure actrice dans Revoir Paris d'Alice Vinocourt et Benoît Magimel reçoit pour la deuxième année consécutive le César du meilleur acteur dans Pacifiction d'Albert Serra. Et pour la première fois, une compositrice, Irène Drezel, obtient le César de la meilleure musique pour À plein temps d'Éric Gravel sur le quotidien en apnée d'une mère de famille solo.
Ça fait 48 ans que les Césars du cinéma existent depuis ces longues années. 5 femmes ont précédemment été nommées, mais jamais aucune d'entre elles n'a été récompensée. Alors ce César, je le dédie surtout à toutes les femmes compositrices de musique à l'image. Merci.
Tous les cinémas du monde sur RFI.
Ce samedi, le jury de la 73e Berlinale, le Festival international de cinéma, jury présidé par l'actrice Kristen Stewart, décerne le prestigieux Ours d'Or. 19 films sont en lice dans des registres très différents. Un documentaire avec Sur l'Adamant de Nicolas Philibert, 2 films d'animation, chinois et japonais, une comédie sur le milieu de la tech, c'est BlackBerry. Cette édition toujours plus politique aura vu revenir le public et les professionnels en nombre, comme s'en réjouit le directeur artistique Carlo Chatrian.
Il y a une atmosphère qui est l'atmosphère que tout le monde connaît et qui est redevenue celle d'un festival qui est un grand lieu d'échange foisonnant avec des films différents qui... amène des discussions.
Vous avez eu énormément de films, enfin, comme chaque année, en plus encore en présentation.
La sélection était, comme d'habitude, difficile parce qu'on reçoit beaucoup de films. Donc, on a reçu même un peu plus que 2020 comme quantité. On est très heureux des films qu'on a sélectionnés parce qu'ils représentent vraiment toutes les couleurs du cinéma. On a vraiment pris du plaisir à inclure dans toutes les sections, y compris la compétition, des films qui parlent des langues différentes de cinéma. Avec le genre, avec les films d'auteur, avec des films engagés. C'est une sélection très politique, peut-être plus que les années d'avant. Je pense que cela est dû au fait que le 2022... avec la réalité, nous a amené aussi toutes les inquiétudes qu'on a pour le monde. Le 2022 a été une année très compliquée. On a cru être hors de la pandémie et on se retrouvait avec une guerre, avec une crise énergétique, avec beaucoup de problèmes dans plusieurs pays. Et là, 2023, avec le tremblement de terre, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et bien sûr, Berlin est une grande ville engagée, donc c'est un dialogue entre les films qu'on présente et la ville. Ce que je veux dire, c'est que la grande différence entre ce festival et les autres, c'est que le même film résonne d'une manière différente.
Il y a toujours, mais ça c'est remarquable par rapport aux autres festivals internationaux, des films venus d'Afrique.
Ce n'est pas un hasard parce qu'il y a un réel intérêt. Je pense c'est un intérêt partagé aussi par mes collègues dans d'autres festivals d'être le plus inclusif possible. D'ailleurs, je me plains toujours parce que je n'arrive pas à trouver le bon film pour la compétition d'Afrique. Mais surtout dans Panorama, il y a une sélection qui est très variée. C'est vrai que c'est plutôt l'Afrique subsaharienne qui arrive avec des propositions fortes. Donc on a des films du Rwanda, on a des films du Burkina Faso, on a des films de la Nigérie. Ça nous fait plaisir.
Un festival ferme ses portes et un autre les ouvre, puisque c'est ce même samedi que s'ouvre à Ouagadougou le FESPACO, le plus important festival de cinéma en Afrique francophone. Le thème principal de cette 28e édition, cinéma d'Afrique et culture de paix, colle particulièrement à l'actualité dans un pays qui a connu 2 coups d'État militaires en 2022 et subit de plein fouet la violence djihadiste. Plusieurs films ont d'ailleurs pour sujet principal le terrorisme, L'envoyé de Dieu de la Nigérienne Amina Abdoulaye Mamani, Épine du Sahel du Burkinabé Boubacar Diallo ou encore Sira, le nouveau film de la cinéaste burkinabé Apolline Traoré. Sira, projeté à la Berlinale dans la section Panorama, est en compétition pour l'étalon de Yenenga du FESPACO. C'est le portrait d'une super-héroïne des temps modernes, une jeune femme Peul qui va survivre à son enlèvement et à un viol par des djihadistes et libérer des femmes esclaves sexuelles. J'ai pu rencontrer Apolline Traoré à Berlin et je lui ai demandé qui lui avait inspiré cette héroïne des temps modernes et cette image si inédite dans le cinéma, une femme bébé au dos qui tient une Kalachnikov. Apolline Traoré, bonjour.
Bonjour.
Syrah est le titre de votre nouveau long-métrage, présenté à la Berlinale, en compétition aussi au FESPACO. Syrah, c'est le prénom de l'héroïne principale. J'ai presque envie de dire que c'est une super héroïne, parce que dès le début du film, c'est une jeune fille nomade qui fuit son village, enfin, qui va aller se marier avec un chrétien. En cours de route, la caravane est attaquée par des terroristes. Elle se fait enlever, violer, et elle va survivre.
Oui, en fait, c'était pour moi une façon de parler de la résilience que mon pays, le Burkina Faso, est en train de vivre. Depuis quelques années, en bataille avec le terrorisme, et c'est extrêmement difficile pour la population. Et surtout, en fait, quand on parle de terroristes dans le Sahel, tout de suite, évidemment, on voit les hommes, les militaires, et les femmes sont toujours représentées comme celles qu'on déplace, celles qui sont meurtries. Pourtant, elles ont quand même aussi un grand rôle dans cette bataille-là. Pour ceux qui connaissent mon cinéma, ils savent très bien que je suis pour la représentation féminine dans tous ses aspects. Il était important pour moi justement de commencer l'histoire justement avec un fait réel qui est l'attaque que nous avons eue de Yerebou, qui est juste partie par des rumeurs parce qu'on a tué un chef et il y a eu une communauté qui a été complètement massacrée. Et d'en faire une fiction, mais vu du point de vue des femmes.
Syrah, c'est un modèle. Bon, elle va survivre, c'est un film de survie au début. Puis après, ça va être, elle va prendre les armes aussi. Elle est incroyable, Syrah.
Oui, oui, parce que c'est ce que ces femmes-là aujourd'hui vivent. Hein. Quand vous partez dans les camps de déplacés, chacune a une histoire incroyable. Quand elles vous disent comment un beau matin, on est venu tirer dans leur village et comment elles ont survécu avec leur famille, avec leurs enfants de bas âge, deux fois avec une balle à l'intérieur de la main, à l'intérieur du corps de leur enfant, comment elles ont survécu à traverser des forêts, à traverser des allées pour arriver au camp des réfugiés et survivre. Mais c'est incroyable. Je dirais même que Syrah, dans mon film, n'est même pas aussi forte qu'elle.
Vous avez rencontré justement, du coup, pour préparer ce film, Apolline Traoré, des réfugiés ?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand vous vous attaquez à des sujets comme ça, surtout aussi sensibles, où aujourd'hui, dans la sous-région, dans le Sahel, les Peuls sont martyrisés, chacun se pointe le doigt, même au niveau de l'armée. Évidemment, il faut une préparation. Il faut s'approcher des gens, il faut aller voir leur vécu, il faut les écouter des deux côtés, des deux camps. Comment ça se passe au plein de l'armée, évidemment, j'ai travaillé avec eux et j'ai rencontré beaucoup de femmes, chacune avec une histoire incroyable qui m'a vraiment boostée à écrire ce que j'ai écrit.
Apolline Traoré, comment vous avez tourné ? Parce que vous avez tourné en partie dans le désert.
À l'origine, ce film devait se faire au Burkina Faso, dans le désert du Burkina. Et on a travaillé là-dessus pendant un bon moment. Et l'armée m'a accompagnée. Et tout avait été balisé, tout avait été réglé au millimètre près. Et l'armée devait nous accompagner pendant 3 mois dans cette zone-là. Et juste après le repérage, justement, une semaine littéralement après notre repérage, il y a eu encore cette deuxième attaque de Solan. Et à partir de ce moment, après Solan, il y avait près de 150 morts. Et à ce moment-là, le gouvernement m'a malheureusement interdit la zone. J'étais extrêmement triste parce qu'il était important pour moi de faire ce film avec la communauté qui vivait en fait ce drame tous les jours. Mais après, le gouvernement m'a complètement dit non, je ne peux plus y aller. Ce qui se comprend parce que vous savez, un film n'est pas 2-3 semaines. On devait être dans la zone pendant 3 mois et donc on devait déployer toute une armée pour rester à nos côtés pendant 3 mois. Pendant que le pays est en guerre, même l'opinion publique n'allait pas le prendre de bon œil. Donc on était finalement obligé de délocaliser le film en Mauritanie.
Et c'est votre plus grosse production à ce jour ?
Oui, c'est ma plus grosse production à ce jour et c'est mon film le plus difficile de ma vie. Tout le long de cette production, j'avais des gens de la communauté qui regardaient, qui lisaient, parce que le film n'est pas là pour heurter qui que ce soit. Hein.
De la communauté Peul, c'est ça ?
Oui, de la communauté Peul, pour savoir un peu comment est-ce que je le représentais, aussi de l'armée. Donc voilà, j'ai vraiment inclus tout le monde pour ne pas vexer qui que ce soit. Voilà, c'est pas ça le but. Le but vraiment, c'est de se montrer ce qui se passe et puis et surtout de donner de l'espoir à mon peuple pour dire que voilà, on va y arriver.
Et le FESPACO, donc du coup, qui se tient dans les conditions qu'on sait. Comment vous appréhendez ce FESPACO ?
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un pays qui est peint en rouge. Tout le monde a peur. Mais la tenue du FESPACO est extrêmement importante parce que c'est à travers l'art qu'on peut calmer et sur, on peut aussi défendre certaines choses. Ne pas faire le fespaco, c'est dire au monde qu'on est à plat, qu'on est à genoux, voilà. On a peut-être les épaules un peu courbées, c'est difficile, mais on n'est pas tombé encore. Voilà, et pour moi, c'est vraiment une manière de montrer que l'art est important et que l'art peut traverser les frontières. Et on espère tous que ce FESPACO va bien se passer et montrer au monde entier qu'avec l'art, on peut faire beaucoup de choses.
Le FESPACO ouvre donc ses portes dans quelques heures. Verdict en fin de semaine prochaine pour savoir qui aura remporté les talons de Yenenga. On termine cette émission au Québec avec un documentaire actuellement en salle. D'abord actrice, Ayaba Oshun s'est longtemps interrogée sur les raisons qui motivaient l'industrie du film à la cantonner dans des rôles de femmes noires stéréotypées. Une quête qui l'a poussée à faire des recherches sur cette question et puis à rencontrer 21 femmes pour discuter sans filtre de leur couleur de peau et des idées reçues autour de cette identité. Projeté dans les salles de cinéma au Québec, son documentaire sera aussi présenté le 2 mars prochain au Rendez-vous Québec Cinéma à Montréal. Notre correspondante Pascal Gricola.
La nounou, la femme hypersexualisée ou la femme très en colère, voilà les rôles qui ont longtemps collé à la peau des femmes noires dans les publicités, dans les films, dans les vidéoclips. Des clichés que dénonce la réalisatrice Ayana Oshun dans son documentaire « Le mythe de la femme noire ».
Les images que je voyais de moi dans les médias, c'était des images extrêmement stéréotypées, puis je ne me reconnaissais pas là-dedans. Comme toutes les adolescentes, je cherchais des modèles auxquels m'identifier, de voir les rôles qu'on offrait aux actrices à la télévision, au cinéma ou dans les vidéoclips, etc. Je ne me voyais pas là-dedans, donc ça a été un défi pour moi de me trouver dans tout ça. Au fur et à mesure qu'il y aura plus de créateurs, de scénaristes, de réalisateurs, de gens derrière la caméra qui travaillent à écrire des rôles ou des représentations de femmes plus complexes, plus nuancées, je pense que le changement peut se faire. Mais ça commence par une prise de conscience aussi.
Pour bâtir son film, Ayana Oshun a interrogé des actrices, des militantes, des psychologues, des philosophes, des femmes noires qui ont vécu dans leur chair les conséquences des idées reçues sur la couleur de leur peau. Comme Anastasia Marcelin qui dénonce les choix effectués par l'industrie du cinéma et de la télévision au Québec.
Quand tu me projettes tout le temps une femme métissée devant moi, tu me dis que c'est elle la femme noire, c'est elle qui me représente seulement. Je te dis que tu es un menteur. Quand tu mets toujours la même image, tu me dis, moi, de m'identifier à elle, ça veut dire que je vais me dépigmenter pour la ressembler aussi.
On oublie que le cheveu crépus naturel, ça fait partie de nous.
Pour Gitana Théobrun, une thérapeute de Montréal, il est indispensable pour les femmes noires de se réapproprier leur identité.
On oublie que la couleur d'ébène, notre peau foncée, ça fait partie de nous. Et bien souvent, parce que ça a été représenté en tant que quelque chose de sale et de pas bien, on va se comparer automatiquement. Sans s'en rendre compte, on essaie de suivre un trend.
En plus de déboulonner les clichés, le documentaire d'Ayana Oshun, porté par la musique de l'artiste québécoise Dominique Fils-Aimé, cherche à donner une nouvelle place aux femmes noires. Elles que les mouvements antiracistes et féministes ont trop souvent négligées. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Isabelle Chenu.
Et Sophie Torlotin, à la réalisation Alice Ménard.
On dit bon vent, bonne route à la réalisatrice historique de l'émission, Fanny Renard, qui part sous d'autres cieux plus océaniques. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même cinéma. D'ici là, bonne semaine à tous.